Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Massad Boulos s'est dit optimiste quant au succès du processus de Doha, même si les choses semblent prendre du temps, dit-il. Le conseiller principal pour l'Afrique du président américain l'a fait savoir au cours d'un entretien qu'il a eu cette semaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Bruxelles, en Belgique. Les jeunes de Kamituga au sud Kivu exigent le départ d'Iwazalendo. Ils dénoncent l'insécurité entretenue par ces combattants. La société civile locale demande au gouvernement d'instaurer l'autorité de l'État pour mettre fin à cette situation. Le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Nord-Sud Kivu appelle au calme et réclame des enquêtes pour établir les responsabilités. Et puis, la guerre dans l'Est de la RDC affecte sérieusement la santé mentale des populations, constat d'un psychiatre clinicien au sud Kivu, Donatien Bachagalouke, l'a révélé en marge de la Journée internationale de la santé mentale. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu jeudi avec Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. C'est en marge de sa participation au Global Gateway Forum à Bruxelles en Belgique. Selon une dépêche de la présidence de la République, cette rencontre fait suite à celle de New York aux États-Unis d'Amérique, où les deux personnalités avaient eu des échanges similaires axés sur les différents processus de paix, notamment ceux de Washington et Doha. Le point dans ce reportage de Grace Hamzati rendu par Donna Madimba Mbaya.
À en croire la présidence de la République de la RDC, Massad Boulos dit rester optimiste quant au succès du processus de Doha, même si les choses semblent prendre du temps. On sait très bien que les délégués ont signé une déclaration de principe le 12 juillet dernier. Malheureusement, il y a eu des vacances à la suite de l'attaque de Doha le 11 septembre dernier. Mais très bientôt, ils vont relancer les discussions, rassure-t-il. Le conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump ajoute que les États-Unis tiennent à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Il précise que l'apport de son pays consiste en substance à un soutien technique avec l'expertise des Américains déjà présents à Doha pour suivre de près toutes les négociations dont la réouverture est prévue en début de semaine prochaine. Notre source affirme que Massad Boulos s'est également prononcé sur le message du président Félix Tshisekedi qui a lancé un appel solennel à son homologue rwandais Paul Kagame, l'invitant à faire la paix des braves et arrêter l'escalade du conflit dans l'est de la RDC. À ce propos, souligne la présidence de la RDC, Massad Boulos a déclaré, je cite, « C'est un geste noble que tout le monde apprécie, c'est quelque chose de très positif qui donne un support qui permettra d'atteindre nos objectifs qui sont la paix et la stabilité dans la région. » Fin des citations.
Par ailleurs, le gouvernement congolais salue l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des résolutions décisives sur la situation dans l'est du pays. C'est ce qu'indique un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et coopération internationale parvenu vendredi à Radio Kapi. En effet, au cours de sa session clôturée mercredi 8 octobre à Genève, le Conseil des droits de l'homme a adopté deux résolutions portant sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC ainsi que sur l'assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Grâce à Mzati.
Le Conseil condamne fermement le soutien militaire étranger au groupe armé AFC M23, en particulier celui du Rwanda, et exige la cessation immédiate de ses soutiens, ainsi que le retrait sans condition et sans délai des troupes rwandaises du territoire congolais. Il exige également un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment par la réouverture des aéroports de Goma et de Bukavu. Le Conseil décide en outre de l'opérationnalisation urgente de la commission d'enquête indépendante créée par sa résolution du 7 février 2025 en remplacement de la mission d'établissement des faits du haut commissaire dont le mandat a pris fin. Selon le ministère des Affaires étrangères et coopération internationale, ces résolutions soulignent les efforts importants du gouvernement congolais pour la promotion et la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement réaffirme son engagement à mettre en œuvre les recommandations du Conseil, à lutter sans relâche contre l'impunité et à garantir la protection de toutes les populations, en particulier les femmes, les enfants et les personnes déplacées, conclut le communiqué.
Direction le Sud Kivu. Je vous l'ai dit dans les titres, les jeunes de Kamituga exigent le départ des Wazalendo. Ceci intervient au lendemain des incidents survenus entre ces combattants et les éléments des FARDC. Les jeunes dénoncent l'insécurité entretenue par des hommes armés, sémant ainsi la terreur au sein de la population. La société civile locale demande au gouvernement d'instaurer l'autorité de l'État pour mettre fin à cette situation. La calmie observée hier matin a été brusquement interrompue par une manifestation des jeunes. Ces derniers sont descendus dans les rues de Kamituga pour exprimer leur colère. Ils scandaient des chants hostiles aux combattants Wazalendo encadrés par les forces de sécurité. Ces combattants sont accusés de plusieurs faits dont le vol, le meurtre et autres. Réagissant à cette manifestation, le président du conseil de l'espace Lega, Crispin Pombo, déplore les accrochages devenus récurrents entre les forces de sécurité et leurs alliés Wazalendo. Il appelle le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités en matière de protection des civils. On l'écoute.
La calmie observée ce vendredi matin a été brusquement interrompue par une manifestation de jeunes. Ces derniers sont descendus dans la rue de Kamituga pour exprimer leur colère. Ils scandaient des chants hostiles aux combattants Wazalendo, encadrés par les forces de sécurité. Ils exigent le départ de Wazalendo de leurs milliers. Ces combattants sont accusés de plusieurs faits, dont le vol, le meurtre et autres. Réagissant à cette manifestation, le président du conseil de l'espace Lega, Crispin Pombo, déplore les accrochages devenus récurrents entre les forces de sécurité et leurs alliés Wazalendo.
Nous pensions que la présence de Wazalendo et la présence des FARDC, ils avaient qu'une seule cause. Mais en profondeur, on finit par comprendre qu'ils ont des visions différentes. Et cette situation nous inquiète. Nous demandons à leur chef que nous ne voulons pas que l'espace Lega reste un théâtre du désordre, un théâtre de pillage, un théâtre où les gens meurent. Chaque Wazalendo doit faire les Kizalendo chez lui, dans son village. Vous avez votre champ, vous avez un tapiscole où vous cultivez pour chercher à manger.
Pour rappel, le 18 septembre dernier, des accrochages similaires entre les deux forces à Mwenga Centre avaient coûté la vie à 8 personnes.
Voilà, c'était là le reportage de Ronéline Tibonera. Entre-temps, des sources militaires à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, confirment que les affrontements ont réellement opposé un groupe Wazalendo aux forces armées du 3306e régiment FARDC dans la nuit de jeudi à hier vendredi. D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Nord au sud Kivu, un commissaire de la police et un militaire du bataillon Buff ont été tués par ce groupe Wazalendo. Le lieutenant Mea Jérémy affirme que la population de Kamituga a manifesté publiquement pendant la journée contre les agissements des Wazalendo, qui sont pourtant les supplétifs des FARDC. On écoute le directeur du service de communication et information des forces armées, le lieutenant Mea Jérémy, et joint depuis Kamituga.
En rapport avec les événements malheureux survenus cette nuit du 9 au 10 octobre 2025 dans la ville de Kamituga, ayant causé la mort de nos deux compatriotes, dont un soldat des FARDC, un commissaire principal de la police nationale congolaise et plusieurs blessés. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu condamne avec la toute dernière énergie et appelle toutes les parties en cause de revenir à la raison et au calme, en vue de préserver la paix et la sécurité en faveur de la population civile étant notre priorité. Cependant, il demande à ce que les enquêtes minutieuses soient diligentées pour établir les responsabilités afin d'éviter la communalisation des faits, étant donné que nous sommes dans l'obligation de s'appuyer mutuellement comme un seul homme pendant cette période cruciale. C'est ainsi que les FARDC compatissent aux familles éprouvées sans distinction.
Par ailleurs, les FARDC appellent toutes les factions des rebelles rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO pour leur rapatriement au Rwanda. Cet appel s'inscrit dans la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Dans un communiqué du 10 octobre, octobre 2025, l'armée invite les populations en contact avec les FDLR à se désolidariser de ces rebelles et à les encourager à se rendre sans condition. Elle prévient qu'en cas de refus d'obtempérer, les FARDC procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. L'armée rappelle enfin qu'aucune collaboration entre militaires congolais et FDLR ne sera tolérée sous peine de sanctions et exhorte les rebelles à faciliter le processus de paix en s'y rendant sans violence ni effusion de sang. Parlons justice à présent. Roger Lumbala, ancien ministre, député et sénateur de la RDC, comparaîtra devant la cour d'assises de Paris le 12 novembre prochain. Il est poursuivi par la justice française pour des faits présumés de complicité de crimes contre l'humanité. Les actes allégués remontent aux années 2002-2003 dans la province de l'Ituri à travers l'opération dite « Effacer le tableau ». La justice française s'effondre sur le principe de compétence universelle pour le juger, principe battu en brèche par l'avocat de Roger Lumbala. Ce dernier dénonce ce qu'il qualifie d'abus et le silence des autorités françaises à plusieurs demandes d'extradition formulées par la justice congolaise pour juger son ressortissant. Philippe Zeller est joint par Jeff Ngoy.
Ce silence interpelle autant qu'il inquiète. Sur le plan juridique, on risque d'aboutir à un abus manifeste de l'exercice de la compétence universelle et à une remise en cause du principe de subsidiarité, dans la mesure où, à nouveau, la République démocratique du Congo a formé une demande d'extradition visant M. Lumbala. Sur le plan politique, le silence des autorités françaises conduit à remettre en cause la souveraineté judiciaire pourtant affirmée de la République démocratique du Congo. Sur le plan des droits de la défense, comment ne pas s'interroger sur l'équité des armes, dans la mesure où M. Lumbala est renvoyé à l'issue d'une instruction, disons-le, hors sol, à 8000 km du théâtre des événements, sans qu'aucun enquêteur n'ait été dépêché en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, on ne peut qu'instamment appeler les autorités à reconnaître la compétence de la République démocratique du Congo pour juger son ressortissant, M. Roger Lumbala, à répondre officiellement aux demandes d'extradition formées par les autorités congolaises, et en définitive, à mettre un terme à cette procédure qui n'a pas lieu d'être.
Autre nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, poursuit son périple à Mwanda dans le Congo central après la base militaire de Kitona. Guy Kabombo Mwadiamvita a visité jeudi la base navale de Banana. Sur place, il a souligné l'importance de délocaliser cette base vers le camp Kindofula, un projet essentiel pour libérer de l'espace en vue de la construction du port en eau profonde de Banana. Blaise Ndongala Mayanda, reportage.
Au cours de cette réunion, le commandant de la base militaire de Banana a présenté plusieurs besoins au vice-premier ministre de la Défense nationale, notamment les déplacements des élèves officiers, la dotation d'ambulance et la construction d'un centre de santé. Guy Kabombo Mwadiamvita a ensuite inspecté plusieurs camps militaires situés dans cette région. Et cette itinérance l'a conduit au bureau administratif de Mwanda où il a vérifié les allégations faisant suite au renvoi de certains élèves officiers du camp Baki en raison de leur appartenance linguistique. Après vérification, ces membres du gouvernement ont noté que ces renvois concernaient plutôt des individus qui se faisaient passer pour des recrues. Guy Kabombo Mwadiamvita a également félicité les élèves sous-officiers et les a encouragés à rejoindre l'armée pour défendre la nation en cette période d'agression. Le vice-premier ministre de la Défense a également pris le temps de rassurer les militaires évacués de Goma à leur assurant l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement.
Aujourd'hui, 11 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de la fille, une occasion de promouvoir les droits, l'égalité et l'autonomisation des filles, placée cette année sous le thème international pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité, autonomisation, et le thème local, ma santé, mon droit, protéger la fille, c'est construire demain. Cette journée met un accent particulier sur la santé des filles et leur droit à un avenir meilleur. Mais comment est née cette journée? Petite page d'histoire avec Enoch Katumbi.
L'idée de consacrer une journée aux filles est née d'une initiative du mouvement des jeunes filles au Canada. Soutenue par plusieurs organisations internationales et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, La journée vise à attirer l'attention sur les défis particuliers auxquels les filles sont confrontées à travers le monde, notamment l'accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à l'égalité des chances. Depuis 2011 donc, chaque édition met en avant un thème spécifique, rappelant que l'autonomisation des filles est essentielle pour construire un avenir plus juste et équitable. Partout à travers le monde, des activités éducatives, culturelles et communautaires sont organisées. Témoignages, débats, plaidoyers, ateliers et activités artistiques. Ces espaces d'expression permettent aux filles de faire entendre leur voix, de partager leurs aspirations et de participer activement à la construction d'une société plus égalitaire. Au-delà de la célébration, cette journée est un rappel collectif d'investir dans les filles.
Actualité internationale.
Nous sommes en Côte d'Ivoire. La campagne présidentielle a débuté vendredi en vue du scrutin du 25 octobre prochain. Le président Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un quatrième mandat. Sa campagne sera officiellement lancée ce samedi 11 octobre à Daloa, une ville traditionnellement fidèle à Laurent Gbagbo. 5 candidats sont en lice pour cette élection, après avoir été retenus par le Conseil constitutionnel parmi 60 postulants.
L'invité.
La guerre dans l'Est de la RDC affecte sérieusement la santé mentale des populations, constat fait par Donatien Bachagalouke, psychiatre clinicien de l'organisation TPO au Sud Kivu. Il a révélé en marge de la Journée internationale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. Il dit focaliser son analyse sur l'impact psychique des conflits armés et propose quelques pistes de solutions. Donatien Bachagalouke est avec Jean Kassami.
Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale, quel est l'état des lieux qu'on peut établir aujourd'hui au Sud Kivu dans ce contexte de guerre?
L'état des lieux de santé mentale de la population au Sud Kivu est extrêmement très très préoccupant. Cela parce qu'il y a augmentation de cas dits aux conflits armés orchestrés souvent par plusieurs mouvements, des groupes armés, qui prédisposent les gens à développer des troubles mentaux comme des traumatismes, des dépressions, des troubles anxieux, des toxicomanies. Je peux rappeler qu'il y a eu un rapport qui a été envoyé par les ministres provinciaux de la Santé dans les derniers trimestres, où il y a eu plus de 49 000 cas qui ont été enregistrés, soulignant un besoin urgent d'investissement et d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires. Ce qui occasionne un souci actuellement parce que l'accès aux soins est difficile pour certaines catégories de gens. Il y a aussi la stigmatisation qui reste un obstacle majeur pour certaines personnes.
Peut-on dire que la guerre a un impact visible sur le comportement psychique de la population de la province?
À cela, on peut souligner qu'il y a des tendances ou alors des facteurs qui aggravent actuellement ces camps de troubles, comme des inondations, des épidémies, et des situations de conflits. Il y a la pauvreté, les stress cumulatifs, les gens sont dans des peurs intenses, dans des tristesses intenses, dans des déséquilibres psychiatriques, psychologiques. Ils sont prédisposés à des sentiments de tristesse, à des dépressions. Tout cela contribue fortement à l'augmentation des troubles mentaux. Même si des efforts sont faits par certaines organisations qui affectent des psychologues dans des soins de santé primaires, certaines catégories déjà se sentent discriminées. Seul un très faible pourcentage des personnes affectées est transféré vers les centres psychiatriques Sosame, qui est le seul centre de santé spécialisé au Sud Kivu. Les gens se disent souvent qu'ils ne peuvent transférer au Sosame que lorsque une personne devient, par exemple, schizophrène, lorsqu'il devient, par exemple, psychotique. Or, c'est pas ça. Lorsqu'on sait seulement quelque chose qui ne va pas dans sa conscience, on sait qu'on est prédisposé à beaucoup de stress, à beaucoup de problèmes, ça crée toujours des soucis. Et puis, même s'il y a une catégorie qui est transférée là, au Sosam, avec la pauvreté, Ça ne permet pas à certaines personnes d'y aller parce qu'il faut qu'ils puissent payer des consultations, qu'ils puissent payer des soins de santé mentale. S'il y aura nécessité de psychothérapes, ils doivent payer et c'est un souci actuellement au site Kivu.
Et sinon, que faire pour que ces gens affectés par les effets négatifs de la guerre puissent retrouver leur santé mentale comme c'était dans le passé?
Les gouvernements congolais et ses partenaires doivent mettre en place les politiques et les investigations pour améliorer l'accès et la qualité de santé mentale dans la province du Sud Kivu. Il serait extrêmement important de fournir beaucoup plus d'aides humanitaires. On peut se dire que la population a beaucoup plus besoin de la nourriture. On peut se dire qu'il y a aussi des problèmes de l'eau, il y a des soucis de l'abri, il y a des gens qui ont des problèmes de soins médicaux. Donc les organisations spécialisées peuvent vraiment faire un effort pour qu'ils puissent venir en aide à ces gens à trouver de l'aide et à se sentir protégés. Beaucoup plus, on peut se dire qu'il est aussi important de soutenir la protection des civils par des respects des droits internationaux humanitaires, afin de promouvoir la paix par des actions de prévention et de sensibilisation.
Je vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité Donatien Bachagalou, qui est psychiatre clinicien de l'organisation TPO au Sud Kivu. Il répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.